VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité politique ici aux États-Unis. Les auditions publiques au Congrès américain pour déterminer si le président Donald Trump doit être mis en accusation dans l'affaire ukrainienne sont maintenant en cours à Washington. Les grandes lignes de la première session hier à la Chambre des représentants contrôlée par l'opposition démocrate avec Abdourahmane Dia.
Ancien militaire, William Taylor a ouvert les auditions publiques et télévisées aux côtés d'un autre diplomate de carrière, George Kent, haut responsable du département d'État spécialiste de l'Ukraine. Les deux témoins avaient déjà livré leur version à huis clos en octobre. M. Taylor a affirmé qu'un canal diplomatique irrégulier avait été mis en place avec l'Ukraine et que cette diplomatie parallèle était dirigée par Rudy Giuliani, avocat personnel du président Donald Trump. À la mi-août, il m'est apparu évident des efforts de Giuliani visant à poursuivre des intérêts allant à l'encontre des objectifs à long terme de la politique américaine en Ukraine, a renchéri M. Kent. Cette procédure est une campagne de calomnie, s'est insurgé le républicain Devin Nunes. Dénonçant une chasse aux sorcières, le président Trump a promis de prendre sa revanche dans les urnes en 2020. Une dizaine d'autres auditions sont prévues au Congrès d'ici le 20 novembre.
Toujours à Washington, le président Donald Trump a reçu mercredi à la Maison-Blanche son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'exécutif américain a vanté à l'issue de leurs entretiens sa bonne entente avec le leader de la Turquie, mais est resté évasif sur le conflit en Syrie un mois après l'offensive militaire d'Ankara contre les alliés kurdes des États-Unis dans le nord-est syrien. Le président Trump s'est félicité du fait que le cessez-le-feu sur place continue de tenir. L'immigration aux États-Unis maintenant, la Cour suprême américaine se penche actuellement sur le sort d'environ 800 000 Dreamers. Les rêveurs en anglais n'ont donné aux jeunes sans papiers arrivés aux États-Unis avec leurs parents alors qu'ils étaient enfants. L'administration Trump a supprimé le programme DACA initié par le président Barack Obama qui permettait à ces jeunes gens de continuer à vivre et à travailler ici aux États-Unis. Voici un reportage de Zlatika Hawk sur les Dreamers, le récit est de Michel Joseph.
Les Dreamers et leurs partisans se sont mobilisés mardi en grand nombre devant la Cour suprême, ici à Washington, pour exhorter les juges à déclarer illégale la décision du président Trump de supprimer le programme DACA. Étudiant en médecine, né au Mexique, Cyrenio Cervantes était du nombre.
Lorsque le président Trump a supprimé le programme DACA, tous mes rêves se sont effondrés. Toute ma vie, j'ai travaillé dur. Et le président Trump, en supprimant DACA, me signifie que mon avenir n'existe pas.
Les défenseurs des droits des immigrants entendent pour leur part poursuivre la lutte, quelle que soit la décision de la Cour suprême, assure l'activiste Omar Engel Perez.
Nous savons que nous ne pouvons rien attendre de positif de cette administration. Mais nous savons aussi que la communauté immigrée est forte. C'est une force qui se fait sentir dans tout le pays.
On s'attend à ce que les juges conservateurs de la Cour suprême confirment la suppression de DACA en disant que sa création était illégale, une thèse défendue par l'administration Trump. Mais pour les partisans de DACA, dont Microsoft et l'Université Princeton, l'attention doit plutôt se porter sur la nécessité de protéger les jeunes sans papier. Brad Smith de Microsoft.
C'est important pour Microsoft pour les mêmes raisons que pour d'innombrables employeurs et pour Princeton. Nous dépendons des Dreamers. Nous en avons 66 comme employés et ils font un travail très important pour nous.
Certains experts estiment que c'est au Congrès et non aux tribunaux ou au président que revient la tâche de décider du sort du programme DACA. La suppression par l'administration Trump de ce programme en 2017 a été bloquée par plusieurs juges fédéraux et cours d'appel.
Merci Michel Joseph.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Ebola en République démocratique du Congo, l'introduction de deuxième vaccin anti-Ebola pour lutter contre l'épidémie de fièvre hémorragique a commencé ce jeudi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. L'utilisation du vaccin ciblera 50 000 personnes sur une période de 4 mois. Selon MSF, Médecins sans frontières, l'ONG responsable de sa mise en œuvre dans deux centres à Goma. Plus de 250 000 personnes ont déjà reçu la dose d'un premier vaccin depuis le début de l'épidémie dans la région en août 2018. L'introduction de ce deuxième vaccin anti-Ebola a été précédée de nombreuses polémiques. En juillet, l'ancien ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga, avait démissionné en dénonçant ce qu'il avait appelé des acteurs qui ont fait preuve d'un manque d'éthique manifeste dans leur volonté d'introduire ce deuxième vaccin. Une réduction sensible des cas de contamination à la maladie à virus Ebola a été observée ces dernières semaines par les autorités sanitaires congolaises. Et toujours en RDC, la MONUSCO, la mission de l'ONU au Congo, a qualifié hier d'inacceptable les discours de haine dans les médias visant la communauté tutsi congolaise des Banyamulenge dans l'est du pays. Le point avec Eric Manirakiza.
Nous avons documenté le retour des discours de haine dans certains médias et sur les médias sociaux contre les populations congolaises Banyamulenge, a déclaré François Grignon, l'adjoint au chef de la MONUSCO en charge des opérations. Ces discours sont inacceptables et doivent être réprimés avec la plus grande fermeté. Nous condamnons cette violence et travaillerons avec le gouvernement pour que les responsables répondent de leurs actes devant la justice, a-t-il ajouté. La communauté Banyamulenge désigne des Tutsis congolais de d'origine rwandaise, majoritairement éleveurs dans la province du Sud Kivu. Depuis mai, cette région des hauts plateaux de Fizi est prise dans une spirale de violence. Un notable Munyamulenge a été tué par des membres d'une communauté rivale en raison de conflits liés à la gestion des pâturages et des champs. Le responsable onusien a estimé que la situation a connu une détérioration significative ces dernières semaines. La MONUSCO a donc renforcé sa présence dans la région tout en invitant l'armée congolaise à déployer un renfort afin de reprendre rapidement le contrôle de la situation.
Politique aux Comores, archipel de l'océan Indien en Afrique australe, le président comorien Azali Assoumani a exhorté l'opposition à participer aux élections législatives prévues début 2020. Scrutin que les opposants menacent de boycotter à moins que leurs exigences, notamment de transparence électorale, soient remplies. L'opposition comorienne a conditionné sa participation aux législatives à plusieurs conditions, notamment le vote de la diaspora et la garantie d'un scrutin libre et démocratique. Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, un parti d'opposition, le Front Patriotique pour le Renouveau, FPR, a été suspendu de toute activité pendant 3 mois pour avoir demandé la démission sans délai du président Rochmar Christian Kabore et du gouvernement. C'est ce qu'indique un arrêté ministériel mercredi. Dans une déclaration publiée le 3 novembre et dépeignant ce que le FPR qualifie de situation nationale devenue exécrable sur les plans économiques, social et sécuritaire, avec le terrorisme qui avance à grands pas et met à nu l'incapacité des gouvernements à sécuriser la nation, la formation d'opposition avait demandé la démission sans délai du gouvernement actuel du Burkina Faso. Tunisie maintenant, Rached Ghannouchi, chef historique du parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives d'octobre, est maintenant président du Parlement. Il a été élu à ce poste mercredi, Bagassi Koura.
Rached Ghannouchi, âgé de 78 ans, a accédé hier à la présidence de l'Assemblée nationale avec 123 voix sur 217. C'est suite à un accord avec le parti libéral Kalb Tounes de l'homme d'affaires Nabil Karoui, vaincu au second tour de la présidentielle du 13 octobre, qui avait pourtant tenté de se poser en rempart contre l'islamisme durant la campagne électorale. Son parti avait exclu avec véhémence jusqu'à la dernière minute tout accord avec la première force du Parlement. Ennahda avait quant à lui réussi à s'imposer en se présentant comme le fer de lance des idéaux de la révolution de 2011. Avec seulement un quart des sièges dans un parlement morcelé, ce parti doit cependant faire d'importantes concessions pour avoir une marge de manœuvre. L'élection de Ghanouchi à la tête du Parlement intervient 2 jours avant le délai pour que son parti annonce le nom d'un premier ministre qui aura la lourde tâche de former un gouvernement susceptible de convaincre la majorité des députés.
Et pour terminer, au Proche-Orient, un fragile accord de cessez-le-feu est entré en vigueur ce jeudi matin dans la bande de Gaza, après 2 jours de combat entre les forces israéliennes et le djihad islamique, ayant fait plus d'une trentaine de morts dans l'enclave palestinienne sur les bords de la Méditerranée orientale.